Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde, toujours en direct sur Radio Courtoisie. En direct, cela signifie que vous pouvez réagir et intervenir. Nous en serions heureux. Donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos questions au cours des thèmes qui vont être traités ce soir et que je vais vous présenter dans un instant. Donc vous pouvez réagir par courrier électronique à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par le site internet directement. Vous cliquez sur « Écouter » et puis là, vous pouvez cliquer encore sur « Envoyer un message ». Voilà, pour le téléphone, ce n'est plus possible pour l'instant. Mais voilà, je me ferai un devoir et un plaisir de lire vos messages, s'il m'en parvient. Pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde, donc, hein, qui se maintient année après année, c'est le 10e anniversaire ce mois-ci de cette émission. J'en profite pour remercier les auditeurs pour leur fidélité et puis pour leurs encouragements qui sont toujours précieux, pour leurs conseils aussi qui sont toujours bienvenus. N'hésitez pas à faire part aussi de vos conseils ou de vos remarques, hein, sur le déroulement ou les thèmes de l'émission, même critiques. Voilà, l'émission continue. Je ne sais pas encore combien de temps, mais nous ferons au mieux, hein, même si l'équipe, pour ceux qui suivent régulièrement cette émission, vous le savez, l'équipe a été amoindrie cruellement et tragiquement avec la perte tout récemment du frère Thierry, qui était mon fidèle associé, je dirais, dans cette émission. Nous lui avons rendu hommage dans la précédente émission, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. On peut écouter cette émission sur le site de la radio, et puis elle va être mise bientôt aussi sur YouTube, je crois. Voilà, donc le frère Thierry, qui après plusieurs années de présence assidue à cette émission, et aussi dans les coulisses, puisqu'il a donné de nombreuses idées de thèmes et d'invités, m'a mis en relation avec de nombreuses personnes, nous a quittés assez rapidement après une brève maladie. Vous pouvez donc écouter l'émission du mois dernier où un hommage lui est rendu parce que c'était tout de même une personnalité hors norme, voilà, et vraiment intéressante. Voilà, et puis auparavant, c'était notre ami Jean-Baptiste qui faisait l'accueil téléphonique, hein, qui nous a quittés assez tragiquement aussi. Alors voilà, le combat continue, l'aventure continue. Avec vous, grâce à vous. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet grave, tragique aussi, hein, dans une certaine mesure, un sujet très sérieux. Il s'agit du coût, et même peut-on dire du gouffre financier de l'immigration extra-européenne en France. Voilà, on entend, si l'on écoute les grands médias, on entend un peu tout et son contraire, surtout du faux, les violons des politiciens ou des éditorialistes immigrationnistes, hein, qui essayent encore de nous expliquer que l'immigration serait bénéfique. Hein, certains osent encore, serait bénéfique sur le plan économique pour la France. Sur le reste, ça s'est un petit peu calmé. On entend moins la ritournelle de gauche, hein, qu'on a entendue pendant des décennies. Les immigrés, l'immigration est une chance pour la France. Plus beaucoup, ils sont encore peu à oser le dire, mais sur le plan économique, ça peut arriver, et puis sur le plan sportif aussi, voilà. Ce qui est assez dérisoire, hein, au regard des autres enjeux, mais bon. Alors, pour traiter un peu de cette question, avec des chiffres fiables et un point de vue juste et pertinent, j'ai le plaisir de recevoir André Pozokov. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur de Chassé, et bonsoir aux auditeurs.
Voilà, merci d'être avec nous. Vous venez de faire paraître un livre intitulé justement « Le gouffre financier de l'immigration extra-européenne ». Et pour vous présenter brièvement, je signalerai que vous avez été diplômé de Sciences Po Paris, que vous êtes...
Alors, Sciences Po Paris 66, hein, pas 2026. Oui, ouais.
Effectivement. Là aussi, les choses ont changé. Ouais. Vous êtes par ailleurs expert comptable, voilà, ce qui est évidemment à noter, hein, vu le sujet que nous allons aborder. Ce n'est pas l'approche d'un idéologue ou d'un littérateur, hein, c'est vraiment l'œil du professionnel expérimenté. Voilà. Et vous êtes par ailleurs vice-président du Cercle national des économistes, qui était présidé notamment par...
Sulzer et par Bernard Monod.
Bernard Monod,
qui est bien connu et qui a écrit un livre important sur l'euro.
Alors d'ailleurs, ce n'est pas votre premier livre sur la question de l'immigration.
Alors, j'avais écrit un livre qui était un recueil d'articles sur la défaite de 1940 chez Synthèse Nationale, étant donné les mensonges et tout ce qui était répandu dans les journaux. Mais surtout, je me suis attaché, et depuis que je collaborais avec Polémia, depuis une dizaine d'années, au problème de l'immigration en général et à son chiffrage. Donc j'ai fait un livre sur la démographie, les entrées, les sorties... De l'immigration, à peu près 500 000, 400 000 à 500 000 nets qui rentrent par an à l'époque. Et à mon avis, les choses ont dû s'aggraver depuis, et surtout sont aggravées en 2024. Et puis un autre livre sur le coût de l'immigration. Et vous verrez que j'utilise un autre terme que le coût. Il y a des coûts de l'immigration, mais que le coût de l'immigration.
Bon, très bien. Alors, nous allons voir tout cela dans un instant. Je précise aussi aux auditeurs que la deuxième partie de cette émission sera consacré à la question de la lecture, avec Jean-Pierre Maugendre, que j'ai reçu souvent et qui intervient souvent à cette antenne, pour notre plus grand plaisir. Jean-Pierre Maugendre, président de l'association Renaissance catholique, et qui a fait paraître un petit livre tout récemment, « La lecture en question », une défense de la lecture. Il souligne l'importance et l'intérêt qu'il y a à lire et faire lire, à l'aide de nombreuses... citation. Enfin bon, voilà, nous parlerons de cette question de la lecture qui est un enjeu important, hélas, aujourd'hui, particulièrement en ce qui concerne la jeunesse. Voilà. N'hésitez pas, chers auditeurs, à participer à cette émission, ça peut être une forme de dialogue. Et avant de nous lancer dans nos sujets, quelques annonces. Tiens, en parlant de livres, justement. Donc ça se passe à la Librairie Française, qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris, 202 rue Le Courbe, entre les métros Vaugirard et Commerce, eh bien, il y a des rencontres avec des auteurs, des séances de dédicaces. Et une qui va arriver très vite, donc ça c'est pour ceux qui nous écoutent en direct, ce jeudi 25 juin. Le samedi 27 juin, l'après-midi, de 15h à 18h, il y aura une rencontre dédicace avec plusieurs auteurs, particulièrement Alain Pascal, qui dédicacera tous ses livres, et puis notamment le dernier, une étude sur l'histoire de la philosophie, intitulée « Du romantisme au national-socialisme », dans lequel il entend retracer le parcours philosophique de cette pensée allemande, de la pensée allemande. Outre Alain Pascal, il y aura Adrien Abosi, qui signera aussi tous ses livres disponibles, et ils sont tout de même nombreux, puisque plusieurs ont été réédités récemment, en particulier... Le roi, le dauphin et le connétable, je l'avais reçu à ce sujet il y a quelques mois déjà, et puis deux autres livres consacrés à l'affaire Dreyfus. Voilà, il poursuit ses recherches et il fait part de documents inédits et voilà, de certaines idées pas nécessairement conformistes. Voilà. Outre Alain Pascal et Adrien Abosi, il y aura aussi Éric Leclerc, qui est spécialisé dans les romans biographiques et qui en a publié plusieurs récemment, notamment sur le Saint-Curé d'Ars, sur Sainte Marguerite Marie et d'autres. Et il y aura aussi Pierre Joly, essayiste catholique, qui viendra présenter et signer ses œuvres. Donc tout ça se passe le samedi 27 juin après-midi à la Librairie Française, dans une salle climatisée. Voilà, important de le préciser. En cette époque, par ailleurs, le samedi 4 juillet, à 4h, c'est Francis Sanchez qui donnera une petite causerie sur le thème « Le retour au savoir des anciens ». Et puis, il dédicacera ensuite son livre intitulé « Anthropocosmos », sous-titré « Le retour du bon sens en physique ». Voilà, comme vous l'avez deviné, c'est un scientifique, un passionné par la science, et donc qui a fait des études scientifiques. Il est sorti major de sup optique, il a un parcours universitaire, brillant, docteur en physique, et donc il nous fait part de ses réflexions qui sortent aussi là de l'ordinaire. Voilà, ce sera passionnant, et c'est le samedi 4 juillet à 16h, donc à la Librairie Française, petite causerie suivie d'une séance de dédicaces. Voilà, et je signale en passant que la librairie, cette librairie Une des rares qui ne soit pas de gauche du tout ne fermera pas de l'été. Voilà. Vous pourrez y faire un petit tour, chiner, découvrir les bonnes nouveautés ou les classiques. Et puis, vous pouvez aussi prendre les informations, les prochains événements, les retrouver sur le site de la librairie, librairiefrançaise.fr. Et bien voilà pour les petites annonces. Alors, plongeons-nous dans ce sujet sérieux, grave et incontournable, hein, celui du coût de l'immigration extra-européenne pour, comment dire, revenir à la réalité. Hein, voilà. Justement, une nouvelle est arrivée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, André Posokov. La dette publique de la France a encore augmenté au premier trimestre. Bon, pas vraiment une surprise, mais enfin, ce sont toujours des chiffres qui donnent le vertige. Hein. On atteint maintenant les 3 536 milliards d'euros, alors qu'on était en fin d'année 2025 à 3 460 milliards d'euros. Donc 75,6 milliards d'euros de plus de dette publique et on atteint 117,5% du produit intérieur brut pour cette dette, des chiffres effarants, hein, vertigineux.
Plus qu'effarants, effrayants.
Effrayants. La France se classe parmi les mauvais élèves, si je puis dire, hein, de l'Union européenne, parmi les pires. Mais, bon, ça fait déjà quelques années que ça dure, les politiciens ne font rien, ils prévoient toujours un budget déficitaire aux alentours de 5%. Je ne suis pas spécialiste comme vous, hein, et encore moins expert comptable, mais enfin, il me semble que la plupart des entreprises auraient été fermées depuis longtemps, mises en redressement judiciaire ou fermées brutalement. Avec de tels résultats, avec de tels chiffres.
Le dernier budget en équilibre date de Raymond Barre, hein, ça nous ramène aux années 70-80, et la France est purement et simplement en faillite, pour plusieurs raisons. D'abord, structurellement, hein, il y a beaucoup de dépenses lourdes, il y a eu l'affaire du Covid, hein, et du confinement. On y ajoute des montants qui sont versés à l'Ukraine, on y ajoute des montants au titre de la transition énergétique, hein, comme dit Gérandeau, tout ça pour rien.
Et puis au tiers-monde aussi. Bon.
Beaucoup de choses. Et il y a évidemment l'immigration qui coûte cher et certainement plus cher que ce qui est dit. Je me rappelle que à la fête de... une fête récente de géopolitique profonde, mon voisin effaré par la dette m'en parlait, il me disait il y a ceci, il y a les dettes, il a dit ce que je viens de dire, hein, l'Ukraine, etc. Et je lui ai dit, et il y a aussi l'immigration, et moi dit l'immigration c'est 45, 50 milliards de l'air d'hier, ce n'est rien. Et c'est cela que c'est contre cela que je m'élève, parce que le terme de coût d'immigration, on voit très souvent que cela ne dépasse pas un montant d'une cinquantaine de milliards, de déficit de cinquantaine de milliards, c'est-à-dire au fond un montant qui serait celui de Pierre Minos, qui fut le grand pionnier de la chose,
oui.
Et simplement actualisé. Autrement dit, si on actualisait le chiffre de Pierre Minos qui date des années 90-97, on arriverait au même montant actuel, environ 50-60 milliards. Comme s'il n'y avait pas eu un déferlement d'immigration dans la France. Alors non seulement une immigration de travail, car nous avons besoin d'immigrer, pas énormément, il y a des témoignages contraires, mais surtout, eh bien, tout ce qui arrive derrière, c'est-à-dire le regroupement familial et l'immigration, les étrangers en situation irrégulière, ce qu'on appelle les ESI ou les ESI, c'est-à-dire les clandestins qui entrent un peu comme ils veulent, hein, déboutés du droit d'asile, touristes qui ne repartent pas, etc. Et donc les chiffres réels, ce chiffre d'environ 45-50 milliards, je le trouve insuffisant et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je dois ajouter qu'il y a une réaction. Par exemple, l'OID, hein, de M. Pouvreau-Monti, a fait un calcul sur la base du chômage, des immigrés extra-européens, et il arrive à 100 milliards de déficit du PIB, 100 milliards, hein, déjà, donc un chiffre qui évolue, en ne prenant que le problème de l'emploi. Donc déjà, il y a une montée, alors j'allais dire en puissance, mais une montée de ces chiffres qui est à l'origine de la descente de la France. Je remarque qu'à l'étranger, en Allemagne et particulièrement au Danemark, eux aussi, ils font des calculs qui aboutissent à des chiffres bien plus élevés. Alors pour moi, ce que j'ai fait, je ne veux pas faire parler du coût de l'immigration, qui est une notion économique. Tout à l'heure, vous disiez, c'est de l'économie. Oui. Non, parce que on ne sait pas si on parle du PIB, si on parle des finances publiques, si on parle de l'un et de l'autre. On parle du surcoût, l'AME, l'aide médicale d'État. Pourquoi serait-ce un surcoût? C'est un coût, tout simplement. Et on arrive à des mélanges de notions diverses. Alors, j'ai agi en comptable. Hein, je sais qu'on peut reprocher à quelqu'un d'agir en comptable. Mais s'il y avait plus de comptables, d'experts comptables à Bercy et moins d'experts des finances, peut-être que nous ne serions pas dans cette situation. Donc, j'ai fait une sorte de compte, vous êtes vous-même entrepreneur, de compte de résultats, pas comptable, parce que la comptabilité, vous avez des produits à recevoir, vous avez des charges à payer, des provisions, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Par exemple, certaines sommes sont considérées, certains montants, certaines grosses dépenses, comme la politique d'avril, sont considérées comme des investissements. Pour moi, c'est une dépense, et même c'est une gabegie, hein, si on les avis offerts. Et donc, j'ai fait un compte de résultats, avec les recettes, c'est-à-dire qu'est-ce que les immigrés versent au titre des impôts et des cotisations, et de l'autre, les dépenses et deux types de dépenses. Les dépenses de nature sociale, et il y en a une douzaine. Hein. Il y a, par exemple, tout ce qui a trait à la famille, tout ce qui a trait à la médecine, enfin à la santé, le chômage, par exemple, le chômage. Je peux donner des exemples là-dessus. La politique de la ville, nous avons tout ce que dépensent les collectivités locales, 40 milliards, en plus de l'État. Et en plus, parce qu'il y a trois budgets en France, il y a le budget de l'État, qui est d'ailleurs, on constate, rien que pour l'armée, à la partie congrue, puisque nous avons le plus gros des budgets, c'est le budget social. Et là, les immigrés ont, et certains types d'immigrés, ont un rôle important, on pourra le voir dans l'accueil. Et puis, vous avez le budget des collectivités territoriales, qui est important, et qui, dans certains domaines, concurrence le budget social. Par exemple, les subventions d'aide sociale, qui sont parfois importantes.
Oui, je vois.
Donc c'est un compte de résultats, un compte de résultats à nature financière. Qu'est-ce qu'ils apportent au point de vue argent et qu'est-ce que nous leur donnons? Alors il s'agit de chiffres de 2022, il s'agit uniquement de finances publiques, je vais peut-être ajouter quelque chose là-dessus, il s'agit uniquement de finances publiques et il s'agit des immigrés extra-européens, uniquement eux dont... Alors, les immigrés extra-européens dans mon livre, ce sont les immigrés directs, ceux qui arrivent, mais aussi la deuxième génération. Alors, ça peut être discuté, mais il s'agit d'immigration. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à une catégorie de population, mais ils font partie de l'immigration. D'ailleurs, l'INSEE, dans ses documents, et des documents fort utiles, joint toujours au nombre et au calcul économique des immigrés directs, ceux de la deuxième génération. Oui. En plus, c'est une population qui pose problème de délinquance, qui pose un problème vis-à-vis du chômage et de l'emploi, puisque leurs taux sont encore plus mauvais que ceux des immigrés directs, et certains d'entre eux se considèrent comme plus fidèles à la charia qu'aux lois françaises.
Donc, ou plus fidèles à leur pays d'origine, même plus ou moins lointain qu'à la France, bien qu'elle leur ait tellement donné. On a eu encore tout récemment un exemple public avec le fils de Zinedine Zidane, qui joue aussi au football et qui a déclaré qu'il était très fier de défendre son pays, c'est-à-dire l'Algérie. Voilà, et pourtant, sa mère est européenne, voilà, mais malgré tout ça, il dit à la face du monde qu'il se sent plus algérien que français.
C'est un excellent exemple.
Alors qu'il a, il a quand même tous les atouts, hein, pour un nom adulé en France, et pas de souci de pauvreté, a priori, hein, pas de misère, donc l'excuse de la misère ne peut être invoquée nullement, une mère même européenne, et malgré tout ça, il n'est pas assimilé. Il le dit lui-même. Voilà.
Donc, bah, faillite totale. C'est la deuxième génération, et la plus grosse partie de la deuxième génération se rallie le plus souvent à la personne la plus influente dans le, dans, dans, dans le ménage des parents, et c'est très souvent le père extra-européen. Très souvent.
Ah, il faut dire aussi que l'assimilation de nos jours n'est pas chose aisée. Déjà parce qu'il y a une telle quantité d'immigrés qu'il n'est pas vraiment nécessaire. Ils ne sentent pas le besoin tout simplement de s'assimiler. Ils peuvent vivre en gardant leurs coutumes entre eux dans une large mesure. Enfin, il n'y a pas de pression non plus en ce sens. Donc, et puis enfin, s'assimiler à quoi finalement, quand on voit les hommes politiques, y compris des présidents de la République, qui nous font savoir que pour eux, il n'y a pas d'identité française, il n'y a pas de culture française, il n'y a pas d'art français, ça c'est Macron. Identité ethnique, alors encore moins, surtout pas, c'est très vilain. Donc finalement, à quoi s'assimiler ?
Alors, concernant cette affaire d'assimilation, Pierre Brochand, qui est un diplomate, un énarque diplomate, et qui a été à la tête de la DGSE de 2002 à 2008, a fait une intervention très longue en 2019, à la Fondation Respublica dirigée par Chevènement. Et je l'ai en annexe numéro 10 de mon livre, une de la partie qui concerne justement cette affaire de la classification des immigrés à l'intérieur du pays selon leur adhésion à la France, selon l'adhésion à notre pays. Il y a les immigrés, les assimilés. Ben, les assimilés, pour lui, alors c'était en 2019, hein, c'était il y a quelque temps, il était entre 5 et 10% de cette population à immigrés directs et de deuxième génération, entre 5 et 10%. Les intégrés, à peu près 30%, le total faisant 40%, enfin la proportion totale faisant 40%. Mais il dit bien que les intégrés vivent très bien, travaillent en France, mais qu'ils se refusent à abandonner leurs références culturelles, leurs habitudes, leur propre identité, et que par contre, ils nous demandent, à nous, de coopérer et d'abandonner partiellement la nôtre. Ce qui me semble très grave. Moi, je tiens à la bataille de Poitiers, je ne veux pas qu'on l'abandonne, hein, et surtout qu'on l'enseigne toujours. Et puis le reste, 60%, eh bien, est-ce que ce sont des ennemis ? Ça pourrait l'être. En tout cas, ce sont des indifférents. Ce sont en tout cas pas réellement des Français, ce sont pour une grande part des gens qui se sentent étrangers pour des raisons sociales, des raisons d'origine et pour des raisons également religieuses.
Oui, oui. Bon, ennemi, ce n'est qu'une petite minorité pour l'instant, mais en tout cas, étranger, ça c'est sûr. Quoi que disent les papiers auxquels le plus grand monde n'accorde d'importance, au moins en tout cas symbolique. Je rebondis avant d'oublier sur une phrase que vous avez prononcée. Alors tout d'abord, je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, en direct, ce jeudi 25 juin, avec pour cette première partie André Pozokov, auteur d'une étude intitulée « Le gouffre financier de l'immigration extra-européenne ». Vous avez dit tout à l'heure, nous avons besoin d'immigrés, dans certains cas,
bon, dans certains cas
pour le marché du travail. Mais jusqu'à il y a très peu de temps, pour les cas où vraiment on ne trouvait pas de Français pour accomplir certaines tâches, et là aussi je pense qu'il y aurait des politiques à mettre en œuvre pour limiter ce nombre de cas, on avait recours effectivement à une main-d'œuvre étrangère, mais dans le cadre de l'expatriation.
Exactement.
Et c'est ce qui se fait encore dans la plupart des pays. Il n'y a qu'en France où les hommes politiques et les grands patrons semblent avoir totalement oublié en quelques années cette notion qui était pourtant évidente et qui est pratiquée encore très largement et qui est d'ailleurs pratiquée par de nombreux Français qui vont travailler pour quelques mois ou quelques années dans des pays étrangers pour leur satisfaction et puis celle du pays accueillant. Alors, bon, il faut absolument, à mon avis, alors un petit livre qui a été édité aux éditions des Cimes sur ce sujet, remplacer les immigrés par des expatriés. Voilà, qui est écrit par François de
Lorsque
Chassay.
Vous citez les politiques, vous oubliez les juges.
C'est vrai.
Conseil d'État, Conseil constitutionnel.
Oui,
je dis vous oubliez, vous le savez évidemment. Mais
non,
Conseil
mais...
d'État, Conseil constitutionnel, il faut voir le rôle qu'a joué le Conseil d'État dans l'affaire du regroupement familial. Hein, dans les
Bien
années
sûr,
80, le maintien, plus les cours diverses et variées de l'Europe, qui jouent un rôle extrêmement important et qui donnent ses ordres, l'Union européenne, sur l'affaire de l'immigration.
C'est vrai. Mais là, on a assisté à l'effacement d'une idée, hein, pourtant élémentaire, et qui est encore pratiquée très largement dans le monde, y compris par certains Français, comme je disais, c'est l'expatriation. Si vraiment on a besoin de main-d'œuvre étrangère, eh bien, on fait venir des expatriés qui vont être très heureux de venir ici pour gagner mieux leur vie, et qui vont remplir leur mission, et qui vont ensuite repartir chez eux, comme ça s'est toujours fait. Pas besoin de les faire s'installer ad vitam aeternam, avec derrière un regroupement familial, et puis avec cette immigration donc, dont on connaît les effets négatifs et qu'on n'ose plus qu'à peine évoquer, tellement le climat judiciaire et médiatique devient délétère et oppressant.
Alors nous en avons surtout besoin au titre des saisonniers, par exemple. Hein. Il y avait une étude de la Tribune en 2015 où ils arrivaient à un besoin d'1,5 million et un peu plus. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est le témoignage d'un auteur qui est très classé à gauche, hein, Lebras.
Oui,
mais lui dit la France n'a pas besoin d'étrangers, n'a pas besoin d'immigrer, parce que nous avons des ressources. Nous avons les femmes, nous avons des gens âgés qui pourraient travailler après 60 ans, après la retraite.
Nous avons beaucoup de chômeurs. Nous avons beaucoup de chômeurs aussi.
Nous avons beaucoup de chômeurs, parce que le vrai chômeur, enfin, dans le livre, c'est indiqué, dans le, nous avons officiellement 2 millions, au total 2 millions 260 000 chômeurs. À Pôle emploi, ils en sont à 6 millions. On fait un rapprochement et si vous voulez, chômeurs plus difficulté d'emploi ou sous-emploi, on est entre 9 et 10 millions. C'est énorme.
C'est colossal. Oui.
Parce qu'il faut distribuer derrière des montants d'aide sociale et il y a là des sommes considérables que si on redistribue le rôle au profit, par exemple, de chômeurs français ou de chômeurs européens. Hein. On pourrait faire des économies extrêmement sensibles sur le chômage.
Bien sûr. Ça, c'est l'aspect financier, hein, c'est votre partie, mais c'est aussi pour beaucoup un vrai problème, un drame humain, le chômage. Hein. Bon. Et d'ailleurs, l'immigration, donc on parlait d'expatriation et d'immigration, comparativement, finalement, l'immigration de travail est très minoritaire dans les flux qui nous parviennent. J'ai oublié, j'avais vu il n'y a pas longtemps le chiffre, mais ça m'est sorti de la tête, c'était très, très minoritaire. Entre les étudiants, le regroupement familial surtout, etc. Et d'autres cas, ceux qui venaient vraiment travailler et trouver un travail, c'était très, très minoritaire.
Ceux qui arrivent le disent souvent. D'ailleurs, moi je réside au Portugal, il n'y a pas de problème. Ils arrivent et ils repartent. Parce qu'il n'y a pas d'aide sociale au Portugal, même pour les Portugais. Et ils vont où ? Ben, ils vont en France et en Allemagne.
Ouais. Témoignage intéressant. J'avais aussi une autre question.
Non, nous avons en emploi immigrés directs 2,20 millions et en descendant d'immigrés 1,37 millions pour un total de 3,5 millions. Sur un total de la population française, plus les Européens, plus les immigrés, de 28 millions de personnes. Autrement dit, ça représente 3,57 sur 28 millions. Voilà le nombre d'immigrés qui sont employés. Mais à côté de ça, il y a les chômeurs, et puis il y a ceux qui sont, j'ai calculé un chiffre de 1,33 million, qui sont en difficulté d'emploi, qui ne sont pas comptés comme chômeurs, mais qui sont en difficulté d'emploi. Et tout ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Lorsque vous parlez du déficit de la France, c'est énorme. Parce qu'il n'y a pas que les stocks, vous parlez le stock, c'est-à-dire de la présence. Vous avez les flux, il y a les coûts de l'accueil. Tout le monde a entendu parler de l'AME, de l'aide médicale d'État. Mais il y a plus que ça. Hein. Il y a, par exemple, les étrangers malades. Ce sont des sommes colossales, les étrangers malades. partir du moment
qui viennent se faire soigner en France. Oui.
Oui, oui. Moi, j'arrive à un chiffre d'une dizaine de milliards, parce que ce sont des étrangers dont ils peuvent prouver qu'ils sont en France, mais qui viennent de pays souvent, le plus souvent africains, pour des maladies graves, demandant des soins lourds et prolongés, et qui coûtent extrêmement cher. Je pense que tout le monde pense à l'AME. L'AME, c'était 1 milliard. Une expert-comptable, Madame Lovagie, députée LR, a fait un travail considérable et arrive à un chiffre qui approche les 2 milliards pour l'AME, qui concerne uniquement les clandestins. Concernant la population normale, il n'y a pas de... La population consomme du médical dans la même mesure que les natifs. Mais par contre, les étrangers malades, il faut lire ce que dit Didier Lesky, qui est un fonctionnaire de l'immigration, c'est d'une sévérité extraordinaire. Il dit, nous sommes le seul pays, je crois, avec la Belgique, à accorder automatiquement à quelqu'un qui le demande des soins gratuits pour lesquels il n'y a pas de cotisation.
Oui.
C'est absolument énorme.
Incroyable. Oui.
Et
donc, les Français payent les soins des autres et payent en partie leurs soins par à eux-mêmes par leurs impôts, mais ils doivent compléter souvent par des frais non pris en charge et puis par le coût des mutuelles.
Oui.
Non mais vraiment, c'est la folie est totale. Oui.
Bon. Je recommande d'ailleurs, si vous me permettez,
oui, bien sûr,
un livre ancien, fait donc par un homme qui est un homme de gauche, Le Grand Dérangement. Et il y a des jugements à l'intérieur sur, par exemple, les associations, par exemple sur l'hébergement d'urgence, qui est un désordre insensé, sur ce dont nous venons de parler, qui sont d'une sévérité même pas atteinte par les partis classés comme anti-immigrationnistes.
Bien, André Posokhov, l'heure avance impitoyablement, comme la dette française. Il faut nous diriger maintenant vers des chiffres avec plus de détails et nous donner le résultat de vos travaux.
Alors, le résultat des travaux, c'est qu'ils apportent 79 sous forme d'impôts, parce qu'ils payent des impôts. Et j'insiste sur une chose, parce que ça m'a été reproché indûment, que je tiens compte des immigrés indépendants, c'est-à-dire des entrepreneurs indépendants, et qui payent des impôts, qui payent de l'impôt sur le revenu, qui payent de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre de leur société, et qui participent en fonction de leur nombre aux impôts directs. Et il ne faut pas oublier que la population immigrée, comme les Français, paye des recettes au titre de la TVA sur la consommation. Et ce sont des chiffres importants.
Oui, oui, sauf cas de vol, évidemment, rarissime.
Et puis, vous savez, les cotisations, puisque les immigrés payent la CSG, c'est la CSG-CRDS, ils payent également... alors, les immigrés, comme d'ailleurs les Français, ne payent pas de cotisations sur leur salaire, autres que ceux liés à la retraite. 40% pour les salariés et 60% pour les patrons. Mais par contre, les indépendants, encore une fois, ceux-là sont importants parce que ce sont ceux qui travaillent, qui sont ce que j'appelle les indépendants, c'est-à-dire les créateurs de petites entreprises, et ceux-là payent réellement des cotisations sociales, et ça fait un montant de 29 milliards. Au total, ce qui est apporté fait à peu près 129, entre les impôts et les cotisations, fait 79 milliards. C'est un chiffre d'ailleurs analogue qui se rapproche de celui, uniquement pour les extra-européens, qui se rapproche de celui de Jean-Paul Gourevitch. Alors, en ce qui concerne les dépenses, on va beaucoup plus loin, parce que j'atteins 200 milliards. Donc, ce qui fait un solde de 121 milliards. 200 milliards de dépenses, parce que vous avez toute une liste de dépenses. Je pense qu'il faut insister sur... Oui, Donc, vous avez 200 milliards, vous avez la famille.
Oui.
Vous avez le chômage.
Oui.
Vous avez le logement. Oui. Auquel il y a tout ce qui est HLM. Hein,
oui, oui, oui. Il y a des chiffres qui sont sortis il y a peu de temps là, sur un site très intéressant qui montrait que dans certaines villes, on était à plus de 2/3 de logements HLM, comme à Nantes par exemple, plus de 2/3 pour des étrangers, officiels, hein, officiellement étrangers. Hein. Plus des 2/3 pour eux.
Ouais. Oui, la France a un taux de logement social nettement plus élevé que celui des autres pays de l'Europe. Vous avez également les dépenses sociales, je vous ai parlé de collectivités locales. L'OID a reproché à certains qui avaient travaillé sur le coût de l'immigration de ne pas tenir compte de dépenses étatiques. J'en ai choisi quelques-unes et je pense qu'elles contribuent aux dépenses des immigrés. Mais de là à prendre la quasi-totalité des dépenses étatiques et de dire qu'elles profitent, c'est vrai d'ailleurs, aux immigrés, je pense que c'est aller un peu loin. Mmh. Alors, il faut ajouter une chose, c'est que dans certains cas, donc comment je fais ? Je prends le montant initial, le montant budgété, hein, par exemple 51 milliards pour la famille. Je calcule en fonction des chiffres qui me sont donnés par les annexes, les chiffres de des immigrés. Par exemple, pour ce qui est la famille, les gens qui travaillent, les gens en emploi, puisqu'ils cotisent, et je rajoute ou je déduis un coefficient amplificateur qui avait déjà été signalé parce que pour certaines dépenses, les immigrés, et les immigrés extra-européens en particulier, dépensent plus que ce qu'ils dépenseraient s'ils étaient natifs. C'est le cas, il y a donc un coefficient amplificateur. Alors, c'est le cas, par exemple, pour la famille, qui est de 2, pour le chômage, qui est 1,6, et par exemple, pour le logement. Mais il y a aussi des coefficients en diminution, par exemple, sur l'éducation. On constate que sur l'éducation, les immigrés, les enfants immigrés, leur taux de présence est faible. Hein. C'est l'ESCI qui dit qu'il y a 1 million de jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui sont d'origine extra-européenne et dont on ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Et certains ne terminent pas leurs études. Et la retraite. Alors la retraite, c'est intéressant de noter qu'en ce qui concerne la retraite, les chiffres de retraite, toujours en fonction des chiffres, hein, des populations. En ce qui concerne les Européens, sont élevés parce qu'ils sont plus anciens en France. Donc les chiffres de retraite sont élevés. Concernant les extra-européens qui sont plus récents, ces chiffres sont plus faibles. Donc il y a un coefficient de diminution. Mais le total, sur la douzaine, treizaine de dépenses, de types de dépenses, et je me fonde sur les chiffres de rapport sur la sécurité sociale, et je les prends, et puis après je fais ma répartition en fonction du nombre des immigrés, plus les coefficients, moins les coefficients, aboutit à 200 milliards. Ce qui fait, en ce qui concerne les dépenses directes sociales et les recettes, un chiffre net de 121 milliards négatif. Et à cela, une autre partie, c'est tout ce qui est non social. Mmh. Alors, c'est là que l'on trouve dans l'immigration régulière les étrangers malades. Hein, et j'insiste sur ce chiffre, dont le jugement, sur lequel Didier Lesky porte un jugement extrêmement sévère, et qui consiste à, sans cotisation, à payer gratuitement des soins très lourds et très longs. Et d'ailleurs, je constate, lorsque je regarde le site de l'OFI, qu'ils indiquent les flux, là, les arrivées, d'ailleurs légèrement en diminution l'année dernière, et qu'ils ne disent jamais quel est le stock, c'est-à-dire le nombre de personnes qui profitent. Mmh. Et les chiffres varient. Hein. Gourevitch avait dit 40 000, d'autres ont dit 20 000, moi j'ai choisi 25 000. Un chiffre intermédiaire, pas un chiffre excessif. J'attire l'attention du public sur ces dépenses qui sont indues. Il n'y a pas de raison. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est indu par rapport au travail, ce sont les médecins. Nous vidons l'Afrique de leurs médecins qui viennent travailler en France, hein, 30% de nos médecins sont d'origine africaine, si je ne me trompe pas sur le rapport. Et là aussi, l'ESCI est très, très sévère. Ils viennent en France parce qu'évidemment, ils sont mieux payés que dans leur pays. Le résultat, c'est que c'est le résultat du numerus clausus qui fait que les étudiants français...
Folie.
Oui, folie. Mais qu'en même temps, les Africains, que ce soit les Maghrébins ou les Subsahariens, ben, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les personnels pour se faire soigner. D'où une colère réciproque. Et cela nous est reproché en disant, vous attirez ces gens-là, ils viennent en France, vous les attirez, et nous on se retrouve sans médecin. C'est l'une des aberrations. Et alors cette aberration, elle joue dans les deux sens. Voilà. Alors il y a aussi, dans les dépenses communes, à tout ce qui est accueil, il y a évidemment l'AME, hein, mais nous en avons parlé, oui. L'AME, est passé à 2 milliards, de 1 milliard à 2 milliards. Nous avons l'hébergement d'urgence, qui est un désordre insensé, puisqu'il devrait accueillir l'asile et les ESI, les clandestins, et que tout cela est mélangé au détriment, évidemment, des Français sans domicile fixe. Et le tout, on n'arrive pas à avoir un montant de coût ferme et définitif, c'est entre 1 et 4 milliards. Et moi, j'ai gardé le chiffre de 2 milliards. Ne pas oublier aussi toutes les sommes qui sont versées aux associations dites humanitaires, et sur lesquelles Didier Lesky porte un jugement. Il dit à quel point l'État conclut des contrats avec, pour justement gérer ces immigrés et les renvoyer chez eux, conclut des contrats avec des associations dont le vrai travail, c'est de les garder et d'empêcher leur départ. Et c'est très clairement dit. Hein.
Oui.
C'est inimaginable.
Oui, il y a tout un commerce, un business en anglais là, autour de cette question. Oui.
Alors, il ne nous pas
l'idéologie et à pas du gain se mêlent. Oui.
Alors, à cela, il faut ajouter le coût que j'ai calculé, sur un montant important, des agressions. Concernant les coups et blessures volontaires, il y en a 322 000 qui ont été répertoriés, sur lesquels on a déposé plainte. Beaucoup de gens ne déposent pas de plainte, qu'ils soient volés, parce qu'ils n'ont plus confiance. Parce que l'un des dégâts de toute cette affaire, c'est qu'il y a un coût qui n'est pas valorisable, qui n'est pas comptable, mais qui est la fin de la confiance dans la police et la justice, et par conséquent dans l'État. Alors, j'ai fait un calcul, 14% des agressions de ces 322 000 sont faites par des étrangers d'origine extra-européenne. Et j'ai fait, comme je l'ai fait pour le pénitentiaire, j'ai fait une extension, parce qu'une partie des immigrés, ce sont d'origine étrangère, mais sont naturalisés, un tiers à peu près. Et puis, il y a des descendants d'immigrés. Donc, je fais une extension de ce chiffre-là, en tenant compte du fait que 40% peuvent être considérés, et c'est plutôt réducteur, soit en fonction de ce qu'a dit Pierre Brochand, soit comme assimilés, soit comme intégrés. Ne pas oublier quand même qu'un assimilé complet, puisqu'il était député d'origine maghrébine, avait assommé c'est quand même pour un immigré assimilé, avait assommé à coup de casque de moto un élu ou un fonctionnaire socialiste. Je rappelle ça. Et j'arrive à un chiffre extrêmement important. Donc le taux de... Alors, il faut ajouter à cela ce que j'appelle la face noire. L'immigration n'a pas qu'une face noire, mais il y a aussi des chiffres de purement et simplement, pas délictuels, même criminels, comme la prostitution. Il y a des chiffres de fraude, pour rappeler qu'il y a eu des débats très forts sur... on était arrivé à 50 milliards. J'arrive à des chiffres plus petits de fraude sociale, aussi bien aux cotisations qu'aux prestations, mais quand même des chiffres intéressants d'une douzaine de milliards. Parce que il est difficile d'aller trop loin. Et il y a une chose dont on ne parle jamais et dont il y a une notion que Jean-Paul Gorevitch a bien mise en avant, c'est le problème de l'économie informelle. L'économie informelle, rien n'est payé à l'État français. Ce sont des sommes considérables. Dans un premier livre, Jean-Paul Gorevitch avait dit que ça représentait 17% du PIB. C'est énorme. Même dans un autre livre, il a parlé de 20% du PIB. Là-dessus, rien n'est payé. Et on arrive à un système qui peut aboutir, après que Hollande ait parlé aux deux journalistes du Monde de partition politique, on peut parler de partition économique. Et je pense que ce qui se passe à Marseille et dans le 93, autrefois la Seine-Saint-Denis, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ne pas oublier l'économie informelle sur laquelle il n'y a aucun chiffre. C'est-à-dire que le total arrive à 250 milliards. Il y a des sommes que je n'ai pas prises, par exemple l'économie informelle. Parce que, d'abord, parce qu'il y a des natifs qui en font partie, il y a des Européens qui en font partie, mais c'est extrêmement flou et vague et très difficile à apprécier. Mais il faut savoir que cela existe.
Voilà, donc vous avez prononcé le chiffre fatidique, 250 milliards d'euros. Donc ça, c'est le déficit. Hein.
C'est le déficit.
C'est-à-dire le résultat des recettes auxquelles on a ôter le coût donc de l'immigration extra-européenne. Et on arrive à un résultat qui est un déficit de 250 milliards d'euros. Et ça encore, c'était en 2022. 250 milliards d'euros, donc dans une démarche raisonnable et peut-être même un résultat optimiste, peut-être aussi, puisqu'il y a quand même aussi toujours une incertitude. Et j'ai vu que vous avez fait des choix plutôt prudents quand il fallait trancher. Donc, hypothèse plutôt optimiste et raisonnable, 250 milliards d'euros, c'est le chiffre qu'il faut retenir, chers auditeurs. Et ça, c'était en 2022. Donc, j'imagine que les choses ne se sont guère améliorées sous ce deuxième mandat du petit magicien de la finance. Quelles projections pouvons-nous faire raisonnablement toujours à partir de ce chiffre de 2022 ?
C'est difficile à dire. Ce que je sais, c'est que sur les parutions de services publics, ils insistent sur la montée en puissance de l'immigration et que les chiffres suivront forcément. Forcément. J'ajoute que lorsqu'on parle de réémigration, on en parle de manière générale, mais que ce qu'il faudrait, c'est cibler les chiffres. Cibler les chiffres s'il y avait un pouvoir digne de ce nom. Et à ce moment, les choses pourraient aller assez vite. Je prends l'exemple des prestations famille.
Oui.
Mais il n'y a pas de raison de payer des prestations famille à des gens qui sont étrangers. Et d'emblée, alors évidemment, il y a tous les Français, c'est-à-dire les descendants d'immigrés et un tiers des immigrés directs qui sont Français. Mais pour ceux qui sont étrangers, aussi bien au titre du chômage qu'au titre par exemple, c'est un exemple, ce qui a trait à la famille, il n'y a pas de raison de payer des montants qui consistent à financer finalement notre propre invasion. Je pense qu'il y a là des données concrètes qu'il faudrait énumérer, mais étant supposé qu'il y a un pouvoir digne de ce nom et que les juges ne fassent pas obstruction à une telle politique. Car il y a aussi un mouvement de retour qui existe chez certains immigrés car ils ne trouvent plus en Europe et en France en particulier, ce qu'ils attendaient, ce qu'on leur promettait.
Oui. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin, ce sera votre conclusion et je vous en remercie vivement, André Pozokov. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le gouffre financier de l'immigration extra-européenne », donc une étude solide et très étayée à partir des chiffres de 2022. Donc c'est en auto-édition, mais on peut le trouver dans les bonnes librairies et sur Internet. Voilà, livre au prix de 26 euros. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir. Chers auditeurs, nous nous retrouvons pour notre deuxième partie dans quelques instants.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, la DMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'OGIM, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Voilà, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie en direct pour le Libre Journal de la France Profonde. Toujours Thibaut de Chassé au micro. Et nous nous retrouvons pour notre seconde partie avec Jean-Pierre Maugendre, qui est désormais avec nous. Bonsoir, monsieur.
Bonjour à tous, bonsoir à tous.
Merci, merci d'avoir rejoint le studio pour évoquer le thème important de la lecture. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur général de l'association Renaissance catholique. Vous êtes par ailleurs éditeur, vous êtes le responsable des éditions Contretemps, donc intéressé aussi à la lecture de ce point de vue-là. Et puis vous participez aussi à des émissions, télévisuelles.
Voilà, j'anime avec Guillaume de Thiolois sur TV Liberté une émission hebdomadaire d'information religieuse qui s'appelle Terre de Mission, qui est mise en ligne tous les dimanches matins à 11h30. Et puis j'interviens régulièrement au Club des Hommes en Noir, donc qui est la chaîne YouTube de L'Homme Nouveau.
Bon, très bien. Alors vous venez de faire paraître un petit livre, petit mais dense.
Ah voilà, ah, petit par la taille.
Mais... Ah oui. grand par l'ambition et l'importance du sujet. La lecture en question, c'est le titre, qui vient de paraître aux éditions Via Romana, livre de poche à 9 euros. Très bien, écoutez, lançons-nous dans ce sujet, parce que je pense que chacun fait le constat, autour de soi et probablement pour soi-même, de la chute de la pratique de la lecture, qui est un problème qui remonte tout de même à quelques années, mais qui s'est considérablement aggravé. On va voir pourquoi et puis comment lutter.
Alors, effectivement, la première partie de ce livre, je crois, il faut toujours partir de l'observation de la réalité. Voilà, de quelle est la situation. Eh bien, la situation est assez triste. Chacun observe que les gens lisent de moins en moins. On estime aujourd'hui qu'un jeune lit un quart d'heure par jour. Et puis que, également, autre donnée, les gens consacrent, ce sont les chiffres d'une étude qui est parue en 2025, donc l'an dernier, les Français passent 3h21 par jour devant leur écran, en dehors de leur activité professionnelle, soit exactement le temps qu'ils consacrent à la lecture chaque semaine, 3h40. Voilà, on est donc dans un ratio de 1 à 7, une journée et les 7 jours de la semaine, entre le temps consacré à la lecture, indépendamment de l'activité professionnelle, et puis le temps passé sur les réseaux sociaux, également, en dehors de l'activité professionnelle. Donc une crise de la lecture. Il y a quelques semaines, lors d'une chronique... le matin, là, sur Europe 1, Philippe Val, je crois, a eu cette bonne expression. Il a fait référence à une idée qui est couramment utilisée, c'est de dire que la lecture est un muscle. La lecture est un muscle, c'est-à-dire que, quel que soit le muscle que vous avez, si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Et c'est la même chose pour la lecture, c'est-à-dire que plus vous vous musclez, plus vous êtes musclé, plus votre muscle se développe, moins les efforts vous coûtent. La lecture, c'est la même chose. C'est-à-dire que un muscle que l'on n'a jamais utilisé, voilà, la première fois que vous vous mettez à faire du vélo, à nager ou à faire des pompes, c'est compliqué. Mais c'est une habitude qu'il faut prendre. Bon, le drame d'aujourd'hui, c'est que ce muscle n'est pas tellement utilisé. On s'est bien sûr interrogé sur les raisons, pourquoi cette désaffection de la lecture.
Oui, mais alors moi j'ai une question préalable, si vous voulez bien.
Je vais essayer d'avoir une réponse.
Alors, d'abord une petite remarque, je n'ai plus le chiffre exact, mais j'avais même entendu qu'un nombre important de jeunes arrivaient de nos jours au bac, se présentaient au bac sans avoir lu un seul livre entièrement de leur vie.
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments sur le sujet, parce que normalement, au moins pour le bac de français, ils ont dû lire des livres, mais bon,
mais il y a des techniques
de mon temps, entre guillemets, mon bac de français est très lointain, donc je ne sais pas comment ça fonctionne.
Dans ma question qui va vous permettre de dérouler un peu votre propos, nous avons dit qu'il y avait un problème ou un drame avec cette baisse continue de la pratique de la lecture. Mais d'abord, avant de voir pourquoi et comment remédier, en quoi est-ce un problème, finalement, de moins lire ?
Alors, en quoi est-ce un problème de moins lire ? Alors que l'on peut reformuler d'une autre manière, c'est pourquoi lire ?
Quelles sont les vertus ?
On va faire ça de manière positive. Alors, dans cet ouvrage, vous trouverez... Alors, comme je lis un peu, dans cet ouvrage, il y a un certain nombre de citations autour de ce thème. Et j'en ai une en exergue au début de ce petit travail. C'est une citation de Saint Bernard. Voilà, Saint Bernard, il est le fondateur de l'abbaye de Clairvaux, il est le réformateur de l'ordre cistercien. Et que nous dit-il, ce brave homme, à propos de la lecture ? Je le cite. Il y en a qui étudient par pure curiosité de savoir, d'autres par vanité, d'autres pour se faire de la science un moyen de fortune et tout cela est mal. Il en est d'autres qui étudient pour se rendre utile aux autres ou pour se sanctifier eux-mêmes et tout cela est bien. Alors que nous dit Saint Bernard ? Il faut éviter de lire par curiosité, par souci de savoir. Alors, c'est la différence que l'on fait traditionnellement, on voit ça chez saint Thomas, entre la curiosité et la studiosité. Voilà, la curiosité, c'est simplement sans intérêt pratique, c'est l'intelligence qui cherche à savoir. La studiosité, eh bien, c'est j'étudie quelque chose, parce que cela me permet de mieux remplir mon devoir d'État. Et Saint Bernard nous dit, j'étudie pour moi, pour me sanctifier, et puis pour être utile aux autres. Voilà. Alors, on peut se poser la question, en quoi est-ce que ce serait... comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux ? Alors, je crois que le lien entre les deux, il est peut-être fait de la manière suivante, c'est que aujourd'hui encore, on parlera peut-être un peu de l'intelligence artificielle tout à l'heure, aujourd'hui encore, la lecture, mais quand vous utilisez l'intelligence artificielle, vous lisez.
Prétendue intelligence artificielle,
aujourd'hui encore, ce qu'il y a d'irremplaçable dans le cadre de la lecture, c'est que c'est un cumul d'expériences. C'est-à-dire que par la lecture, vous bénéficiez de l'expérience de 2500 ans d'histoire de l'humanité. Vous en bénéficiez à la fois dans le temps et dans l'espace. Voilà. C'est-à-dire que les civilisations de l'écrit, il y a des civilisations qui ont été des civilisations qui existaient, qui n'étaient pas des civilisations de l'écrit. Le meilleur exemple qu'on en ait, ce sont les Gaulois. Oui. Les Gaulois ne nous ont rien transmis, car ce n'était pas une civilisation de l'écrit. En revanche, nous savons, les Romains, les Grecs nous ont transmis un certain nombre de textes et puis un certain nombre de réflexions. Je cite régulièrement une citation du général Matisse. Alors, le général Matisse a été un des nombreux secrétaires d'État à la défense de Donald Trump lors de son premier mandat. Et alors, il a commandé les troupes américaines en Afghanistan. Il se déplaçait toujours avec une montagne de livres. Pourquoi ? Parce qu'il écrivait, je le cite, « En lisant, on apprend à travers les expériences des autres. Grâce à ma lecture, je n'ai jamais été pris de court par aucune situation, jamais sans savoir comment un problème avait déjà été abordé, en bien ou en mal, auparavant. Ça ne me donne pas toutes les réponses, mais c'est une lumière dans un chemin qui est souvent sombre. » Voilà, je trouve la lecture, c'est vraiment ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est ce cumul d'expériences. La génération spontanée n'existe pas plus dans le domaine naturel que dans le domaine intellectuel. Les situations auxquelles nous sommes confrontés, si bien sûr elles ont à chaque fois leur originalité, parce que l'histoire ne se répète pas, il y a néanmoins des points communs avec des situations qui ont été vécues antérieurement. Et ce que nous dit le général Matisse, c'est toujours intéressant de savoir comment les gens ont résolu des difficultés analogues à celles auxquelles nous sommes confrontés.
Bien sûr, plutôt que de repartir à zéro à chaque fois, oui.
Plutôt que de repartir à zéro à chaque fois, exactement. Et ça, ça rejoint un point aussi dans ce cadre-là pour prendre ses décisions quand on est chef d'entreprise, responsable politique, etc. C'est le rôle irremplaçable de la culture générale. Voilà, c'est-à-dire la culture générale me permet de bénéficier de ce cumul d'expérience. Voilà, c'est le général de Gaulle qui, dans son ouvrage « Vers l'armée de métier », écrivait, je le cite, La véritable école du commandement est la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Et j'en parlais là avec un ami qui déplorait que dans le cadre aujourd'hui des études de l'ENA, voilà, cette dimension de culture générale ait été considérablement réduite. C'est-à-dire on a des techniciens, généralement on a des financiers, puisqu'avec les résultats mirobolants que chacun peut observer, mais on n'a pas ce recul que donne la culture générale. Il est quand même incroyable que lors d'un récent entretien entre Xi Jinping et puis le président Trump, Xi Jinping ait parlé à Donald Trump du piège de Thucydide. Bon, à mon avis, Donald Trump, le piège de Thucydide, je ne suis pas persuadé qu'il sache très bien ce que c'est. Et en fait, Xi Jinping, qui est un homme de culture générale, le piège de Thucydide, c'est quoi? C'est de dire qu'il est observable historiquement qu'une puissance dominante qui voit émerger une puissance nouvelle est condamnée à s'opposer à cette puissance nouvelle pour conserver cette hégémonie. Et alors ça, c'est la référence à la guerre du Péloponnèse, à Athènes, Sparte, etc. Et c'est clair que Xi Jinping, quand il dit ça à Donald Trump, c'est parce que il a 2500 ans de recul et il dit « Vous êtes aujourd'hui la puissance dominante, nous sommes la puissance montante, la nature va faire qu'on va quand même être amené à s'affronter. Bon, il faut essayer de trouver une solution pour que ça se passe le moins mal possible. » Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant que le président Xi Jinping fasse référence au piège de Thucydide.
Ouais. Alors Jean-Pierre Maugendre, vous avez mis en valeur l'importance de la culture générale, mais on pourra vous objecter qu'il y a de différents moyens aujourd'hui pour l'acquérir, cette culture générale. Alors, pourquoi faudrait-il privilégier le livre? Il y a des émissions télévisuelles ou radiophoniques.
Il y a deux réflexions pour le livre. D'abord, je pense qu'un livre, on en conserve une trace. C'est-à-dire que quand vous lisez, alors d'abord, on va se mettre à l'école de Voltaire. Voltaire qui nous dit « Celui qui ne lit pas un crayon à la main dort. » Celui qui ne lit pas un crayon à la main dort. Bon. Eh bien, en lisant notre livre sans dormir, donc en prenant des notes, on peut y revenir, on peut le partager, on peut alimenter telle ou telle réflexion, tel ou tel dossier, etc. Ce qui n'est pas le cas d'une émission télévisée ou d'une émission de radio. Voilà, je serais surpris que parmi toutes les personnes qui nous écoutent, il y en ait beaucoup qui prennent des notes. Alors, s'il y en a qui prennent des notes, voilà, nous allons être comblés. Mais ça n'est quand même pas le cas général. Voilà, l'avantage de la lecture, c'est qu'on en conserve des traces. On peut y revenir et on est moins dans le flot de l'immédiateté, c'est-à-dire de quelque chose qui rentre par une oreille ou que l'on voit et puis qui ressort par l'autre oreille. Voilà, je pense que la lecture, ça permet de conserver des notes. Et puis je crois également que la lecture, c'est aussi un moyen de maîtriser ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte, vous décidez de vous arrêter, vous prenez un peu de recul, vous dites « Ah ben, je comprends pas bien parce que deux pages avant, il a fait ça ». Quand vous regardez une émission de télévision ou quand vous écoutez une émission de radio, alors si c'est en direct, eh ben, par nature, c'est impossible, puisque la personne elle vous emmène, vous pouvez pas revenir sur ce qui se passait avant. Et sur si c'est en différé, je doute que beaucoup fassent l'effort de comparer, de revenir, et surtout conservent une trace. une trace qui soit une trace réutilisable. Voilà, pour moi, c'est vraiment un des atouts majeurs de la lecture. Avec un autre atout, c'est... Alors aujourd'hui, c'est moins vrai parce que vous pouvez rerouter les émissions qui vous ont plu, etc. Mais voilà, vous pouvez prêter un livre plus facilement, peut-être, que vous ne rerouterez une émission de télévision ou une émission de radio.
Oui, avec un risque, évidemment, quand on prête le livre. Hein, c'est celui de ne pas le voir revenir. Mais
ben
c'est
vous...
un autre sujet
ben oui.
douloureux.
Alors, douloureux, ça dépend pour qui.
Mais en tout cas, il est clair, et des études scientifiques un peu techniques que nous n'allons pas aborder l'ont montré, quand même, l'acte de lecture sollicite le cerveau d'une façon différente que le fait de voir ou d'écouter passivement. Et alors, cela muscle le cerveau, évidemment. Cela permet aussi de mieux intégrer ce qu'on lit, de mieux s'imprégner, de mieux le comprendre et de mieux le retenir. Et puis, il y a aussi, évidemment, d'autres effets bénéfiques hein, sur l'intelligence et le cerveau. Notamment, cela favorise la capacité de concentration. Et puis, ça stimule l'intelligence globalement hein, parce que un effort est demandé, évidemment. Comme toujours, hein, sans effort, le résultat est moindre.
Le savoir est un fruit dont la racine est amère.
Quand on est avachi devant un écran, bon, il n'y a aucun effort, ni physique, ni intellectuel, et finalement, il n'aura généralement pas grand-chose. Mais c'est comme ça, c'est une loi de la nature.
Alors, je crois que vous avez évoqué, mis le doigt sur un aspect important, je renvoie nos auditeurs aux travaux d'Elisabeth Nuitz, c'est que cet apprentissage de la lecture engendre des connexions neuronales dans le cerveau qui, quand elles ne sont pas faites tout petit, et en particulier elles ne sont pas faites dans le cadre de l'apprentissage de la lecture par des méthodes qui sont des méthodes non syllabiques, que l'on a appelées des méthodes globales ou des méthodes semi-globales, eh bien, il y a des connexions qui ne sont pas faites au bon moment, et il y a des choses, quand elles ne sont pas faites à 4, 5, 6 ans, etc., ben, elles ne se feront pas à 18 ou 20 ans. Et pour certains, c'est tard, voire trop tard.
Desmurger aussi, Michel
voilà,
Desmurger, vous
Michel
le citez aussi,
alors
lui aussi.
Voilà, à la fin du petit livre, on met toute une bibliographie sur le sujet, et on cite ses auteurs.
Bien sûr, incontournable, Desmurger, très intéressant. Et inquiétant, en tout cas, c'est, les résultats de ces travaux sont assez inquiétants hein, sur l'avenir de l'intelligence.
Sur l'avenir de l'intelligence qu'on observe avec la chute régulière des classements de la France dans les classements PISA, donc sur tous les domaines, et en particulier un effondrement tout récent sur ce qui était un domaine d'excellence de la France, c'est sur les mathématiques. C'est-à-dire que quelqu'un, bien évidemment, qui ne maîtrise pas la langue française, ben, va avoir du mal à tenir un raisonnement. J'en parlais il y a quelques temps à un professeur d'université. Alors, pour ses élèves de première année, il me disait, bon, il y a plein de fautes d'orthographe, bon, voilà, bon, ben, je m'y habitue, etc. Alors, maintenant, on est passé à un autre stade. Le problème, c'est plus les fautes d'orthographe, c'est que je ne comprends pas ce que la personne veut me dire. Quoi. Je ne comprends pas une phrase, sujet, verbe, complément. Ben, manifestement, c'est pas comme ça qu'ils ont été éduqués. Alors, le ministre de l'Éducation nationale vient de faire des déclarations péremptoires sur le fait que pour avoir son bac, il fallait maîtriser la langue française, etc. Cher ami, les gens qui passent leur bac et qui ont 17 ou 18 ans, c'est trop tard, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils savent, tant mieux, ils savent pas, ça va être très, très, très compliqué.
Ouais. Bon. Et puis la langue est le support de la pensée. Donc, quand on n'est plus capable d'écrire et de faire des constructions grammaticales correctes, qui sont quand même fondées sur la logique, c'est assez inquiétant sur la capacité à
Alors,
penser.
Alors, c'est inquiétant sur la capacité à penser, c'est aussi inquiétant sur la capacité à transmettre. Voilà, moi je me rappelle d'un entretien de recrutement, j'embauchais quelqu'un pour travailler avec moi, donc d'un niveau bac, je ne sais plus exactement, 2, 3 ou 4. Et puis à un moment donné, l'interlocuteur me dit, voilà, je voudrais vous dire quelque chose, je n'ai pas les mots pour vous le dire. Je sais pas, je peux pas. Et puis également, la maîtrise de la langue, et en particulier la maîtrise de la langue française, qui est quand même une, je dirais, une merveille de précision pour l'élaboration de la pensée, pour la finesse des sentiments. Quand vous n'arrivez pas à manifester, à exprimer les sentiments qui sont les vôtres, c'est la porte ouverte à l'incompréhension, et de l'incompréhension à la violence, la frontière est parfois ténue.
Oui, bien sûr. Oui. Nous avons rappelé que la lecture stimulait l'intelligence, mais elle stimule aussi l'imagination, et beaucoup de gens, y compris des parents, n'ont pas forcément conscience de cela. C'est-à-dire qu'ils pensent que lire un livre, lire une histoire romanesque, ça revient un petit peu au même pour un enfant que de regarder un dessin animé ou un film. Or, ça n'a pas du tout le même effet sur l'imagination.
Alors, effectivement, nous avons consacré toute une partie de ce petit travail à l'aspect pas uniquement immédiatement utilitaire, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure sur le fait de bénéficier d'une expérience plus ancienne, mais sur le fait effectivement que par la lecture, nous stimulons l'imagination et nous le stimulons de manière plus immédiate que par exemple dans le visionnage d'un film. Quand vous visionnez un film, il n'y a pas de place à l'imagination. Parce que tout est fourni, et il y a d'autre part un effet, je dirais, mécanique, physiologique, de l'attraction de l'image animée, qui fait que de toute façon, vous êtes prisonnier de cette image, on le voit en particulier
saturé,
pour les enfants.
Bon. Saturé, fasciné. Ouais.
Et donc, alors que quand on lit un texte, eh bien... il reste une place à l'imagination qui va nous permettre, en fonction de ce qui est dit, de l'imaginer d'une manière, de l'imaginer d'une autre. Et ce qui fait d'ailleurs qu'à la lecture de certains textes, les personnes différentes qui ont, lu le même texte, parfois imaginent des choses de manière différente, parce que c'est le cas de le dire, leur imagination n'a pas fonctionné pareil.
Oui. Et le livre permet l'imagination, mais il la contraint même. Enfin, il pousse, il nous oblige à imaginer.
On est bien obligé. Il nous oblige à imaginer.
De mots, il faut compléter. Et c'est l'imagination qui travaille. Donc, évidemment, pour les enfants, c'est aussi très bénéfique de ce point de vue-là. C'est important de solliciter cette imagination qui est une des caractéristiques de l'âme humaine, avec l'intelligence notamment. Bon, très bien. Écoutez, le temps file. Impitoyablement, il faut peut-être en venir aux moyens qu'il y a pour remettre à l'honneur la lecture, pour soi et puis pour ses proches, éventuellement.
Alors, effectivement, donc je rappelle le plan qui a été le nôtre dans ce petit travail. L'importance de la lecture, pourquoi il faut étudier. La deuxième partie, c'est quels sont les obstacles à la lecture. Ces obstacles à la lecture, donc il y a le manque d'aisance. Voilà, les gens qui ont du mal à lire, ils vont pas se mettre à lire facilement. Le manque de goût. Bon, et là, ça rejoint quelque chose plus directement lié à la question que vous venez de poser. Il y a des gens qui n'ont pas le goût de la lecture. Généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'essence. Et puis, c'est également, ça rejoint notre idée du muscle de tout à l'heure. C'est-à-dire un muscle que vous n'utilisez jamais, un geste que vous ne faites jamais, les premiers gestes vous coûtent. Alors, le conseil que nous donnons concernant le goût, si vous voulez donner le goût de la lecture à vos enfants en particulier, il me semble qu'il faut leur donner à lire des livres qui correspondent à un sujet sur lequel ils ont une appétence en dehors de la lecture. Voilà, votre garçon, il s'intéresse à l'aviation, vous lui offrez des livres d'aviation. Comme il est intéressé par le sujet, vous augmentez la probabilité qu'il fasse l'effort de la lecture, même si il n'en a pas le goût naturel. Voilà, donc savoir utiliser les centres d'intérêt des enfants, des personnes qui nous entourent. Et puis je crois également, en particulier dans tout l'aspect éducatif, qu'il y a une forme de mimétisme. C'est-à-dire, comment voulez-vous demander à vos enfants de lire s'ils ne vous voient jamais lire ? Voilà, s'il ne vous voit jamais lire. Et puis, bah, tout le monde, c'est ça aussi, c'est laisser traîner tel livre, telle publication, telle revue à disposition de ses enfants les plus jeunes, en espérant qu'ils en acquerront le goût. Alors, tout cela n'est possible que si on a une forme d'organisation de vie, quoi. C'est-à-dire que la vie moderne est chronophage. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène de manière tout à fait extraordinaire, au sens d'inhabituel. On n'aurait jamais imaginé ça, je pense, il y a 20 ou 30 ans. Et donc, si nous voulons conserver du temps pour la lecture, si nous voulons conserver du temps pour la lecture d'un livre, il faut s'organiser. Et je suis vraiment à chaque fois fasciné d'une certaine manière par le niveau d'addiction aux réseaux sociaux, aux portables, etc., d'un certain nombre de nos contemporains. Voilà, il faut arriver à se libérer. Alors moi, je donne toujours un conseil très pratique, alors qu'il n'est pas de moi, ce n'est pas une nouveauté. Voilà, déjà, un bon moyen d'être tranquille, ce n'est pas d'écran dans la pièce dans laquelle on dort, et puis pas d'écran après le dîner. Voilà, ni PC portable, ni téléphone portable. Voilà, après, sauf cas particulier, il y a toujours des cas particuliers. Et ça vous laissera du temps pour la lecture. Parce que sans ça, eh bien, c'est toujours plus facile et plus sympa de regarder une petite vidéo, un petit tuto ou je sais pas quoi sur Internet plutôt que de s'astreindre. Alors, je crois qu'il faut le dire aussi, il y a des lectures qui sont des lectures qui nous font, dont nous avons besoin pour tenir nos devoirs d'État. Je rappelle que le devoir d'État, c'est pas que le devoir d'État professionnel. Le devoir d'État sont tous nos États, c'est notre État de mari ou d'épouse, nos États de parents, d'enfants, de chefs d'entreprise, de salariés, de citoyens, de voisins, etc. Eh bien, tous ces devoirs d'État doivent être accomplis dans la plénitude des responsabilités qu'il nous confie. Et donc, il est nécessaire de connaître les responsabilités auxquelles nous sommes engagés, effectivement, par l'étude. Mais il y a également l'étude. Là, alors, l'expression avait été un peu mise à disposition du grand public par un article de l'abbé Berthaud, il y a bien longtemps, sur la vertu de Trapelli. Voilà, on étudie, on lit pour étudier, mais on lit aussi pour se distraire, pour découvrir d'autres mondes, pour faire travailler son imagination, pour être enthousiasmé par des figures qui nous ont précédés, qui nous ont édifiés. Voilà, la lecture n'est pas que quelque chose d'austère et d'immédiatement utilitaire.
Ouais. Très bien. Comme autre petit conseil qu'on pourrait donner, notamment aux parents un peu désespérés, alors vous en avez déjà donné un qui est capital, évidemment, c'est donner l'exemple, donc lire devant les enfants. J'ajouterais peut-être leur lire avant qu'ils puissent lire eux-mêmes, donc lire devant eux.
Oui.
D'ailleurs, après, les petits imitent les plus grands, hein, les cadets imitent les aînés. Ils ont envie de. Une fois qu'on a donné le pli au premier, c'est plus facile puisque les petits veulent imiter les plus grands. Mais on peut aussi donner envie aux petits enfants en leur lisant des livres, des histoires. Ils voient déjà, ils font déjà un lien entre le livre qu'on tient dans les mains et un certain plaisir. Le goût des histoires, notamment.
Alors, à la fin du livre, justement, on propose quelques titres pour, suivant l'âge, quelques titres pour les enfants.
Autre petit conseil, alors là, c'est une expérience plus personnelle, mais pourquoi pas la communiquer, finalement. Favoriser des créneaux pour les tout-petits et profiter notamment des temps réservés, de temps calme, par exemple, hein, pour la sieste. À partir d'un certain âge, ils deviennent un peu réticents à la sieste. Et là, on peut leur dire, écoute, voilà, il y a une heure de temps calme ou de sieste, mais si tu veux, tu peux aussi lire si tu ne veux pas dormir. Et naturellement, ils vont se tourner vers les livres autour d'eux.
Alors, ça, après, c'est les petits... avec une question, quand on parle des lectures pour les enfants, il faut veiller, je pense aussi, à ce qu'ils ne lisent pas que des bandes dessinées. Quoi.
Mais
parce
bien
que
sûr,
ça aussi, ça, c'est la solution facile. De facilité. Mmh. Alors, ils lisent, et ils sont contents de lire. Ils lisent les dessins. Je crois que la bande dessinée, elle a sa place, parce que elle joue un rôle. Mais je pense qu'il faut éviter la solution de facilité qui consiste à ne faire lire que des bandes dessinées.
Bien sûr. Et puis très vite, évidemment, entre un livre et une bande dessinée, l'enfant va choisir la bande dessinée.
Oui, c'est sûr que c'est plus attrayant. Alors l'image n'est pas animée, mais le fait qu'il y ait quand même une image,
c'est naturel.
Ça joue un rôle.
C'est naturel. Il peut être bon aussi de mettre les livres à l'honneur dans la maison. Alors non seulement à portée de main, mais aussi à l'honneur, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas sous cloche, hein, des livres qu'on ne touche jamais, et que ce soit l'écran géant.
Les livres qu'on ne touche jamais, c'est quand vous n'en avez pas beaucoup.
Pour faire joli dans un coin, mais et en revanche, c'est l'écran géant qui a la place d'honneur. Vous voyez, qu'on peut aussi réajuster éventuellement. Et puis effectivement, la lutte contre les écrans, bon, vous l'avez un peu abordé, mais là, je pense que tout le monde comprend bien le danger. Les journées n'ont que 24 heures. Et d'ailleurs, les confinements... Les libraires ont bien senti l'effet des confinements pendant la crise de Covidesque. Beaucoup de gens sont passés sur les écrans davantage, ont souscrit des abonnements, etc.
Ah oui, des séries,
vidéos Netflix et compagnie. Et évidemment, les journées n'ont que 24 heures, donc on ne peut pas tout faire, c'est la lecture qui passe à la trappe. D'autant plus quand même, il faut préciser que les séries modernes sont très bien faites pour être addictives, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles sont faites... De telle sorte que dès qu'on arrive au bout d'un épisode, on a vraiment une envie terrible de voir le suivant. Et puis sans parler des réseaux sociaux, avec des algorithmes de plus en plus
Alors je rappelle que c'était effrayant. La même chose pour les bandes dessinées qui paraissaient en feuilleton. Alors les bandes dessinées qui paraissaient en feuilleton, mais également un certain nombre d'auteurs qui paraissaient en feuilleton.
Ah oui, mais on était contraints d'attendre.
Voilà, il y avait... La porte s'ouvrit, un grand cri surgit... Entre parenthèses, suite au prochain épisode. Voilà. Et donc là, il faut acheter le journal du lendemain.
Mais il fallait attendre un peu.
Ouais.
Très bien. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Autre suggestion dont vous faites part dans le livre, avant que j'oublie, il nous reste 2 minutes, les cercles de lecture. Alors ça peut être bien aussi pour se motiver, se stimuler.
Pour les gens qui ont du mal à lire tout seul, alors dans ce livre, on cite... Je cite un texte de la Constitution des Dominicains, dans lequel ils disent que c'est vraiment un service de charité d'étudier ensemble, voilà, de pouvoir partager les lectures. Et alors, c'est quelque chose, j'observe, qui se développe bien. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de cercles de lecture.
Très bonne idée.
Voilà, la lecture, entre guillemets, ça n'est pas une satisfaction solitaire, c'est quelque chose que l'on doit pouvoir... partager,
l'occasion
faire bénéficier
d'un
de ces lectures, et puis échanger autour des sentiments. Tiens, à quoi ça vous a fait penser? Qu'est-ce que ça a évoqué? Alors, dans cette petite plaquette aussi, donc, j'ai évoqué les livres pour les enfants, mais il y a également, collationné 12 thèmes, et pour chacun des 12 thèmes, on propose 2 livres. Voilà, au-delà de la question un petit peu théorique, pourquoi lire, que lire, comment lire, etc. On donne aussi des choses concrètes sur tel ou tel sujet. Ben, lisez, on vous conseille de lire ci, de lire ça, etc.
Oui, des pistes concrètes. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Maugendre d'être intervenu sur ce thème important. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de ce petit livre de poche intitulé « La lecture en question » paru aux éditions Via Romana et disponible au prix de 9 euros. Voilà. Merci.
Merci de m'avoir accueilli et puis bonne
Avec
lecture
plaisir.
À tous.
À bientôt, chers auditeurs.
Entendre le libre journal de la France profonde dirigé par Thibaut de Chassey, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 25 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.